Et nouvel épisode aujourd'hui d'Allo la Bretagne, bien sûr en compagnie d'André Locussol. Bonjour André.
Bonjour.
Et dans cette émission, on va parler d'un sujet récurrent depuis quelques années, la relocalisation. Alors André, pourquoi ce sujet revient à la une dès qu'on parle relance économique et réindustrialisation en France ?
La France a perdu près de 3 millions d'emplois industriels depuis 1974. Mais depuis quelques années, la tendance s'inverse et on crée plus d'emplois qu'on en perd. Le textile a perdu 80% de ses emplois en 50 ans, par exemple. L'industrie ne représente plus que 13% du produit intérieur brut en France, contre 20 à 25% en moyenne en Europe. Même si la Bretagne semble moins touchée que d'autres régions par la désindustrialisation, on assiste à une transformation massive de l'appareil de production breton. Un comité régional de la Bretagne industrielle, présidé par le président de la région Bretagne, Loïc Chesnais-Girard, associe les services de l'État, les représentants du monde économique et consulaire, les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, pour déployer des actions prioritaires à mettre en œuvre. Il a ainsi été décidé d'accélérer la dynamique collective qui s'appelle BRESFAB, déjà en place. Toutes les entreprises industrielles sont désormais concernées afin qu'elles puissent accéder aux aides mises en place.
Et André, est-ce que c'est facile de savoir où justement étaient partis tous ces emplois détruits en France par l'externalisation et les délocalisations des entreprises ?
Oui, de nombreuses activités industrielles ont été délocalisées comme le jouet que j'ai connu aux éditions Nathan, d'abord à Hong Kong, ensuite à Taïwan, une porte ouverte sur la Chine, puis en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, voire même en Amérique du Nord, pour des raisons de coûts de main-d'œuvre principalement, mais aussi en Europe, dans les pays où la main-d'œuvre est bien évidemment la moins chère. Depuis plus de 50 ans, ces délocalisations se justifieraient, dit-on, pour des raisons de productivité, rentabilité, compétitivité insuffisante de nos entreprises. Des mots dont on se gargarise sans savoir à quoi ils correspondent exactement. Et sans qu'il y ait eu d'études officielles, objectives, approfondies et exhaustives sur ce sujet. Pourtant, la main-d'œuvre représente dans l'industrie à peine 15 à 20% des coûts des produits, sauf dans les entreprises de main-d'œuvre. Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault de 92 à 2005, considérait que ce n'était pas un argument lorsqu'il parlait de l'automobile. Bien sûr, disait-il, les salaires sont un peu plus chers qu'ailleurs, mais pas plus chers qu'en Allemagne, qui est la première industrie automobile européenne. Les coûts de main-d'œuvre de montage ne sont pas déterminants si on a des usines productives automatisées et compte tenu de l'avantage de la localisation géographique de la France. Fin 2019, le coureur d'ailleurs du travail, industrie et services marchands compris, était de 37,5 euros. De l'heure en France, compte 37 euros en Allemagne et 32 euros en moyenne dans la zone euro.
Alors justement, la pandémie actuelle liée à la Covid-19 montre les effets négatifs, néfastes des délocalisations. On l'a vu avec, bien sûr, le manque de masques, de produits de production pour les tests, de médicaments qui sont forcément en partie la conséquence des délocalisations. Et maintenant, on en parle également avec la question des vaccins. La France qui sous-traite de plus en plus à l'international et nos entreprises qui optent pour des stratégies d'internationalisation dans des pays qui sont parfois, en tout cas on peut se poser la question, pas forcément toujours très qualifiés et très sûrs.
En dehors des médicaments, c'est le manque de masques en premier, de respirateurs, de tests de diagnostic qui a le plus marqué l'opinion en France. La Covid-19 a montré notre dépendance vis-à-vis de l'étranger et surtout vis-à-vis des laboratoires américains, britanniques, suisses et même chinois. Sanofi est d'ailleurs le seul laboratoire français figurant parmi les 12 premiers laboratoires dans le monde. Ils sont 7e. Nous passons donc au niveau des commandes dans les derniers, d'où la pénurie actuelle. La relocalisation annoncée des industries de santé pourrait aider à pallier certaines pénuries de médicaments, dit Que choisir dans son numéro de février 2021. Dans cet article, on note que la majorité des fabricants les principes actifs dans chaque médicament, il y en a un ou plusieurs, ça confère à ce médicament un effet thérapeutique particulier. Un principe actif peut être un ensemble de composés chimiques ou de substances naturelles. Donc je disais qu'effectivement, dans cet article, on note que la majorité des fabricants de principes actifs est située en Asie. Les sites de recherche et de production se raréfient en France. Que Choisir parle de relocalisation comme une antidote permettant en cas de nouvelle crise ou de tension géopolitique de réquisitionner la production domestique, c'est-à-dire du pays, de notre pays. Des associations militent pour l'obligation de constituer d'importantes réserves de médicaments et de stocks, c'est-à-dire de stocks de sécurité.
Alors on parle de stock, André, on va aussi parler évidemment d'approvisionnement. C'est donc en raison de problèmes d'approvisionnement que le cas des masques a été un problème très sensible depuis un an.
Effectivement, compte tenu de leur gestion inconséquente, voire désastreuse, depuis plus de 10 ans, il y a unanimité là-dessus par les gouvernements précédents et le gouvernement actuel. Je citerai par exemple la Bretagne, où l'entreprise de production de masques de Plaintel, rachetée par un groupe qui s'appelait Onewell, puis délocalisée, faute de soutien public, a fait qu'on n'avait plus de production de masques en Bretagne. À ce sujet, Loïc Chesnais-Girard, le président de la région Bretagne, a missionné Guy Ascouette, ancien secrétaire d'État à l'économie solidaire du gouvernement Jospin et ex-conseiller régional, qui est chargé de proposer une stratégie de redémarrage dans le Nord-Bretagne, dans les Côtes d'Armor exactement.
Eh bien justement, André, nous avons pu joindre Guy Ascouette qui nous a présenté l'historique, l'histoire, la genèse de cette COP des masques.
L'initiative est partie des anciens salariés et un peu toutes les forces vives sur la place de Saint-Brieuc qui constataient que 2 ans après avoir fermé l'usine Serpian, on avait un déficit de masques. Et donc, ils se sont dit, mais s'il faut des masques et qu'il en manque, il y a une opportunité de relancer une activité. Et puis donc, très vite, ils se sont convaincus qu'il fallait le soutien des grandes collectivités à tous les niveaux, qu'il fallait mobiliser tous les métiers du secteur breton privé concernés par l'usage des masques. Et puis, ils ont eu une demande citoyenne énorme. Donc, ils ont conclu qu'il fallait faire une société coopérative d'intérêt collectif. Et il se trouve que, Oui, donc en fait, ils sont venus sur l'idée de faire une SIC. Et comme je l'avais fait adopter il y a 20 ans, ils se sont dit, mais il habite le département, il connaît parfaitement le texte juridiquement. Donc, faut que demander lui s'il veut se mettre au travail. Et donc, très vite, c'est parti, fin mars l'année dernière. Et dans la foulée, la région et le département ont confirmé le souhait que je me mette au boulot sur le projet. Et puis, ça s'est déclenché en 8 jours, à peu près. Ça a été très rapide. Donc, début avril, j'étais au travail pour étudier les possibilités, quel statut, quel niveau d'investissement, tous les paramètres d'un dossier de ce type.
Alors, sur le site internet de la COP des masques, vous parlez même d'une course contre la montre où il y avait cet objectif d'être opérationnel en à peu près 6 mois, c'est ça?
C'est-à-dire qu'en fait, début avril, moi j'ai rendu l'architecture de projet deuxième quinzaine de mai. Mois de juin, on avait l'arbitrage favorable et on déposait les statuts au tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Et puis entre donc à ce moment-là, on n'a pas de locaux, on a des statuts, on a un regroupement qui commence à s'opérer dans le capital social de la COP. Et puis on est en train de chercher les locaux, lancer les procédures pour les machines, enfin tout quoi. Donc en fait, on a on a pris quelques semaines de retard, donc on aurait pu être avant Noël. On a finalement inauguré en début janvier, quoi. Voilà.
On a un peu évoqué le financement pour vraiment lancer cette entreprise, cette COP des masques. Quels ont été les financements qui ont été mobilisés?
Alors, il y a deux catégories. Donc, d'un côté, on s'est dit qu'il faut constituer un capital social solide et donc mobiliser les acteurs privés, les collectivités locales et les citoyens. Donc, on a ouvert le capital à quasiment un quart pour les collectivités, un quart pour les citoyens. Et puis, au milieu, on a tous les partenaires privés de tous les métiers bretons, donc médicaux, sanitaires et sociaux, les branches professionnelles classiques du bâtiment, de l'agriculture, enfin bref, on a déjà pas loin d'une soixantaine d'entités différentes, publiques ou privées, qui sont au capital social, et on s'en va gentiment vers les 2000 citoyens bretons, et pas que bretons, mais bretons, on va dire, à 85% à peu près, qui ont pris des parts sociales à travers le système en ligne, hein, www.lacopdesmasses.com, et tout est expliqué là. Voilà. Alors, sur le plan, par contre, des investissements, donc les machines et les équipements, donc on a d'un côté les murs sont portés par la SEM Braisimo, qui est un peu chargée de faire ce genre de portage économique, et donc dont on devient le locataire, même si on est un tout petit peu propriétaire, et on achètera nos murs. Et puis on a mobilisé 4 banques, des partenaires en fonds propres, type les mutualistes VYV, la Banque des Territoires. Puis on a 4 banques coopératives qui ont soutenu et qui ont répondu présent pour les machines masques et pour une partie de la machine textile, puisque nous produirons aussi du textile filtrant qui va au cœur des masques à partir de cet été.
Et l'une des particularités, donc on parle bien de la COP des masques, la coopérative des masques, vous avez choisi, donc vous l'avez évoqué, un statut particulier, alors celui de société coopérative d'intérêt collectif, c'est
collectif.
Ça
en fait, si vous voulez, très concrètement, c'est la seule dans le droit français, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a adoptée à l'époque, parce que ça fait des défauts, qui autorise aussi bien des acteurs publics que des acteurs privés ou des individus à prendre des parts sociales et à monter au capital de ce modèle de coopérative. Alors que les autres, c'est des coopératives de production où il y a les producteurs regroupés, enfin, il y a tout un tas de formes de coopératives, mais chacune a ses spécificités. L'avantage de la SIC, c'est qu'elle vous permet de décider en amont qui on fait rentrer, comment on organise le poids de vote de l'AG et du conseil d'administration, et d'organiser des collèges. Donc on a une vingtaine de collectivités locales, hein. On a la région et le département des Côtes d'Armor, mais aussi celui d'Ille-et-Vilaine. On a plein d'intercommunalités, de Rennes à Brest, en passant par plein d'autres intercommunalités, bien sûr, Guingamp-Paimpol, qui sont montées au capital. On a 25-30 entités privées qui sont aussi bien des entreprises, tout court, hein, alors, du bâtiment, de l'agro, de la grille, de l'informatique, etc., par plein de métiers. Puis on a beaucoup d'acteurs du sanitaire et social, donc tous ceux qui gèrent les structures d'accueil des personnes âgées, des jeunes handicapés, etc. Et puis on a des professions de l'hôpital public, privé, l'hôpital à domicile. Et donc ce sont aussi bien des associations que des fondations médicales, que des organisations de toutes sortes et de statuts juridiques très variés.
Guy Asquette, parlons également un petit peu d'emploi. Actuellement, je crois qu'il y a entre 30 et 40 postes salariés par la COP des masques. Est-ce que c'est amené à évoluer?
On a deux groupes. On a un premier groupe de 21 personnes qui sont déjà là, qui sont donc consacrées à la production des masques chirurgicaux et FFP2. Et on aura, à partir de juin, une quinzaine supplémentaire qui arrive, qui est toute l'équipe qui va produire le textile dès lors que la machine sera installée et en état de produire. Donc en fait, il y a deux phases. Hein. On a rentré 21 personnes déjà et ils seront rejointes donc par cette quinzaine probablement vers la fin juin ou courant juillet. Donc on arrive à une quarantaine d'emplois à peu près sur le site par rapport au projet. Alors je précise une chose, c'est que nous avons ouvert notre recrutement aux personnes qui présentent un handicap dans toutes les catégories qui peuvent être concernées par ce vocable. Mais ça veut dire qu'on a rentré un tiers de notre équipe en sélectionnant des gens qui correspondent à ces situations-là. Donc on a aujourd'hui 7 personnes sur les 21 qui sont issues de ces profils et on a bien l'intention de garder cette volonté-là sur le groupe d'ensemble avec la deuxième équipe.
Et justement, puisqu'on se projette, on parle de perspectives, quels sont les grands défis qui attendent la COP des masques pour les prochains mois et même les prochaines années?
Alors, on va y aller un peu par étapes. Dans les prochains mois, en ce moment même, c'est d'agréger les clients et d'organiser le flux de sortie des masques et de monter en puissance en volume produit chaque mois. Enfin, on est dans cette phase de lancement, hein, puisque ça fait à peu près 2 mois hein, qu'on a démarré. Donc ça, c'est le premier challenge. À part cet été, maîtriser la production du tissu filtrant qui va au centre des masques. Et puis pareil, recommencer à trouver des clients, puisque là, on n'est plus sur des clients locaux et régionaux, voire nationaux, qui utilisent des masques. Mais les clients, ce sont les gens qui fabriquent des masques, donc ont besoin de ce tissu. Et d'ailleurs, en France, comme un peu partout autour de nous, Donc là, on est sur un deuxième projet qui est un marché aussi bien français qu'européen, on va dire. Donc voilà, donc ça, c'est le challenge immédiat. Et puis, comment dire, on a des idées de développement, on a d'autres projets, on est sur un projet de recherche et développement sur le recyclage et la mise en place d'une filière complète. Enfin bon, il y a différents volets qui vont prendre leur essor dans les mois, j'allais dire l'année et demie qui est devant nous, à peu près.
Guy Ascouette, président de la COP des masques, et nous sommes de retour avec André Locussol. Alors André, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur cette question de la relocalisation?
Bon, j'avais consacré en 2014 d'ailleurs plusieurs émissions dans Allô l'écho au sujet des délocalisations et relocalisations. Les effets néfastes de la délocalisation sont multiples et justifient toutes ces relocalisations. Délais allongés de production et de livraison, éloignement des sites de production, faible réactivité par rapport à la demande en cas de rupture et d'approvisionnement, d'où des risques de perte de chiffre d'affaires et de clients, auxquels on peut ajouter des coûts élevés de transport et d'assurance. On a le cas actuellement avec un immense cargo qui transporte des containers et qui bloque le canal, je crois, de Suez. Donc c'est un exemple qui montre que effectivement on peut avoir des ruptures d'approvisionnement. Sans oublier que ça génère des pertes d'emplois industriels dans le pays d'origine, entraînant du chômage, lequel a un coût souvent non mesuré. Il serait trop long d'énumérer ici toutes les expériences de relocalisation, entre autres, de certains médicaments antiviraux et anticancérigènes en France et en Bretagne. Elles sont nombreuses, mais malheureusement encore très insuffisantes pour développer le tissu économique et agir sur le chômage. Enfin, le gouvernement vient de dessiner, de reconfiner 16 départements, soit un tiers des Français, en faisant fermer toutes les boutiques dites non essentielles, comme l'habillement et le textile. Or, l'industrie textile, qui avait perdu, comme je l'ai dit, 80% de ses emplois en un demi-siècle, était en train de se relocaliser, particulièrement dans le Nord. Une région très affectée économiquement et socialement par la Covid-19. Et donc, les syndicats de la profession ont réagi et exprimé leur colère face à ce troisième confinement incohérent et injustifié. Notre économie est de plus en plus gravement menacée par ce genre de mesures iniques et incompréhensibles. Kenavo.
André Locussol, merci de nous avoir présenté ce sujet, votre analyse et votre regard, évidemment votre point de vue sur ces différentes situations. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode d'Allô la Bretagne. Merci André.
Merci et Kenavo.